Jean-Marie Meyer, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous enseignez à Philanthropos dans le cadre d'un module qui s'appelle Personne et éthique. On va essayer de voir en un petit résumé ce qui s'est passé sur une dizaine d'heures de cours. Tout d'abord, peut-être quelques mots sur qui vous êtes.
Eh bien, je reviendrai tout à l'heure sur Philanthropos, mais pour ce qui me concerne, moi, Anthropos lambda, si j'ose dire, je suis professeur de philosophie donc à Paris, au lycée Stanislas, et puis j'enseigne également en faculté, toujours à Paris, à la faculté de philosophie comparée, où là, je suis professeur d'éthique. Et donc, à ce titre, il me semblait intéressant de faire réfléchir des étudiants qui ont un an pour recevoir une vraie formation de fond sur ce qu'est la personne humaine, en me servant aussi de mon expérience professionnelle.
Alors on va essayer de balayer ça rapidement avec vous. Connaissance de la personne, il y a deux sortes de personnes qui nous concernent, moi-même et puis les autres autour.
Dans un premier moment, il me semblait intéressant de m'interroger sur ce mot, parce que le mot personne, il est assez bizarre. Historiquement, c'est un mot qui semble assez peu approprié pour dire ce que nous avons de plus intime, de plus profond, de plus radical. Et pourtant, de fait, c'est un mot dont on a le plus urgent besoin aujourd'hui, où quand on emploie le mot « homme », on hésite pour savoir si on parle d'un mâle ou au contraire d'une femelle. Quand on emploie le mot « homme », on ne sait plus très bien si l'homme c'est un animal comme les autres ou si c'est pas un animal du tout. Enfin, vous voyez, il y a une nécessité de clarifier le vocabulaire au travers duquel on parle de « alors, ce que je suis ». Et ce qu'est autrui. Et il se trouve que quand je dis que je me connais comme une personne, je désigne à la fois la dimension la plus extérieure, mon corps, mais aussi quelque chose qui dépasse le corps, qui me permet d'ailleurs d'en prendre conscience, et qui me permet aussi de m'interroger. Alors appelons ça esprit pour l'instant, on y reviendra peut-être. En tout état de cause, il y a une dimension d'intelligence et de volonté dans la personne qui me semblait important de présenter. Et puis, il y a donc évidemment le rapport à autrui, c'est-à-dire quand je rencontre un ami ou un concitoyen, je me dis que derrière le visage qui me dévisage, il doit bien y avoir quelqu'un qui est un peu comme moi. Quelqu'un qui réfléchit, il faut toujours faire confiance aux autres, quelqu'un qui s'interroge sur le sens de sa propre vie, comme moi. Et donc, de façon toute simple, autrui, c'est l'alter ego, un autre moi, un autre que moi, mais quelqu'un qui a une richesse intérieure que je dois supposer comme étant aussi au moins aussi importante que la mienne. Alors, on soupçonne qu'il y a une énorme richesse, bien sûr, et j'ai souligné dans mon enseignement que, certes, le philosophe a des choses à dire, c'est clair, mais il a aussi beaucoup à apprendre de qui ? Des psychologues, des romanciers, des amoureux, de ceux qui parlent de la vie intérieure, de la vie spirituelle. Pourquoi ? Parce que tout ça, ce sont des approches de la personne.
Alors Jean-Marie Meyer, qu'est-ce que ça apporte de réfléchir justement sur la personne d'un côté et de lier ça à l'éthique ?
D'abord, il est difficile, pour être franc, il est impossible de réfléchir sur l'éthique si on ne parle pas de la personne humaine. Pourquoi ? L'éthique, c'est cette science qui s'interroge sur les moyens que l'homme peut mettre en œuvre pour parvenir au bonheur. Et vous voyez que d'entrée de jeu, pour définir l'éthique, j'inclus la relation à la personne humaine. D'un autre côté, lorsque je m'interroge sur ma vie, lorsque je discute avec autrui, surtout si c'est un ami, je me rends compte que, au fond, même si c'est par des éclairages différents, selon des angles d'attaque différents, nous avons tous une grande question. Nous voulons chacun d'entre nous non seulement réussir dans la vie, mais aussi réussir notre vie, c'est-à-dire réussir ce que nous sommes. Bon. Et lorsque je creuse dans cette direction-là, je me rends compte que, à la différence de la bête, de l'animal non humain, qui lui est programmé et qui d'une certaine façon n'échoue jamais, pour vous et pour moi, c'est pas gagné. C'est-à-dire, il y a un enjeu, et l'enjeu c'est de réussir dans notre vie. Et non seulement de réussir dans notre vie, encore une fois, mais réussir notre vie. Et là, vous voyez bien que c'est forcément personnel. C'est-à-dire, pour le dire de façon un petit peu simple, c'est pas parce que mon voisin est heureux que moi je le suis. Alors, on peut souhaiter évidemment qu'on articule, qu'on agence une vie en commun de telle sorte qu'on soit heureux ensemble, mais c'est tout sauf automatique. Et si c'est tout sauf automatique, c'est pas du tout une déficience, c'est que tout se passe comme si on avait une capacité d'être heureux, certes, mais si, comme si cette capacité était remise entre nos propres mains. Et non seulement entre nos propres mains, mais d'abord à notre intelligence. Pour être heureux, ben, il faut d'abord réfléchir au bonheur, ça peut aider. Et si on a passé quand même pas mal d'heures à réfléchir, et je crois que les étudiants en ont été, alors heureux je ne sais pas, mais en ont été un petit peu enrichis, je crois, ou moi je l'espère, c'est parce que j'ai essayé de leur montrer que le bonheur, soit il est personnel, soit il n'est pas du tout. C'est-à-dire, soit j'épanouis vraiment ma personne, mais alors il faut que je me connaisse, il faut que je m'interroge sur les aspirations les plus profondes qui sont inscrites en moi, et puis surtout si on fait de l'éthique, il faut que je me pose la question de savoir au travers de quels actes je vais pouvoir extérioriser ce que je suis et puis enrichir ma propre personne. Parce qu'il y a ces deux mouvements, découvrir les propres richesses qui sont enfouies en moi. Vous savez, dans le domaine éducatif, il faut déjà aider les autres à prendre conscience des richesses qu'ils ont. Et puis parfois, il faut leur dire, dis donc, il faut sortir, il faut aller voir, il faut apprendre. Il faut que tu ailles recevoir d'autrui des choses que tu n'as pas, et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Aller, par exemple, dans une formation professionnelle, découvrir qu'autrui sait faire des choses que je ne sais pas faire, mais qu'il est tout disposé à me transmettre, évidemment, c'est merveilleux. Donc, vous soupçonnez aussi tout l'ensemble des liens qui sont susceptibles d'être tissé au travers de cette recherche du bonheur. La personne, c'est pas une sorte d'être clos sur lui-même qui n'aurait qu'à développer un programme, c'est un être qui, grâce à son intelligence et à sa volonté, c'est-à-dire grâce à sa capacité d'interrogation sur l'être des choses et à sa capacité de choisir, peut s'enrichir, recevoir, découvrir et au travers d'une interrogation bien menée, peut finalement se dire « Bon, j'y vois à peu près clair sur ce que doit être le but de ma vie. Maintenant, il me reste à choisir les meilleures voies d'accès pour y parvenir. »
L'éthique donc fait appel au bonheur.
C'est le point de départ, effectivement. Un certain nombre de gens, au fur et à mesure de l'histoire, ont cherché à aborder l'éthique au travers d'autres concepts, comme la loi, par exemple. Moi, je crois que c'est pas la meilleure façon de faire, parce que ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Je m'explique. C'est pas inintéressant de réfléchir sur la loi. C'est pas inintéressant de réfléchir à partir de données psychologiques comme le désir ou comme la frustration. Mais je préfère aller tout de suite à ce qui est principal, parce que ce qui est principal, c'est ce qui éclaire le plus. Or, fondamentalement, nous sommes à la recherche du bonheur. Et donc, lorsque j'explique que l'éthique nous aide à découvrir comment faire pour être heureux, bah j'observe que mes étudiants, ils sont plus intéressés que si je leur parle d'abord de la loi.
Vous abordez aussi la question de l'éthique à travers Aristote, en particulier les vertus. Vous pouvez nous dire un mot là-dessus ?
Oui, vous avez dit les vertus, je préférerais dire d'abord la vertu, puis ensuite, évidemment, on essaye d'être plus concret et de regarder quelques-unes d'entre elles. Mais la vertu d'abord, vous avez raison de faire référence à Aristote, parce que l'actualité d'Aristote est extraordinaire. J'aurais envie de dire que, vous savez, les philosophes sont toujours actuels, et puis c'est le monde qui, de temps en temps, est un peu actuel comme les philosophes. Il faut savoir retourner le lieu commun qui voudrait que ce soit les journalistes qui soient les spécialistes de l'actualité. Ce sont les spécialistes de l'événement. Nous sommes spécialistes de l'actualité. C'est pas la même chose. Donc, pour revenir à Aristote, Aristote voit la vertu, d'ailleurs, vertu c'est un mot français, qui s'efforce de traduire tant bien que mal, et pas parfaitement d'ailleurs, le mot grec « arete », que je préférerais ici rendre par « excellence ». Alors ici, dans le domaine éthique, l'excellence, c'est pas n'importe quel type d'excellence, ça n'est pas l'excellence technique, c'est pas l'excellence d'un produit fini, c'est pas l'excellence d'une machine qui tourne bien, c'est l'excellence au sens où une personne atteint à sa plénitude. Alors bien sûr, on peut par exemple aller chercher dans le domaine technique une sorte d'équivalent. Lorsque je vois un virtuose jouer, et vertu virtuose c'est quand même pas très loin non plus, lorsque je vois un virtuose jouer, j'ai pas l'impression qu'il réfléchit au mouvement de ses doigts sur le piano, sur le violon. et pourtant c'est de la musique. Ou pour mieux dire, c'est parce qu'il ne réfléchit plus au mouvement de ses doigts que c'est enfin de la musique. Hein? C'est, il arrive à quelque chose d'ultime. Eh bien, quand je vois des êtres humains qui accomplissent pleinement leur vocation, comment dire, on est au-delà des petites choses. Je veux dire, on est au-delà, comment dire, des aspects techniques, au travers des petits modes d'emploi, au travers desquels on croit qu'on va... Des trucs, c'est le mot. Des trucs au travers desquels on croit qu'on va réussir. Non, c'est quelqu'un qui maîtrise bien l'essentiel des actes au travers desquels il s'épanouit. Et c'est ça l'éthique. C'est-à-dire, en pratique, on ne peut être heureux qu'en découvrant les capacités qui sont les nôtres, et non seulement les capacités qui sont les nôtres, mais on épanouit ces capacités au travers de dispositions, c'est précisément ce qu'est une vertu, qui nous rendent encore plus capables d'agir. Quelqu'un qui est vertueux, c'est quelqu'un qui utilise à plein les capacités humaines, c'est-à-dire qui ne rabougrit pas son affectivité, mais qui au contraire l'épanouit, simplement qui l'épanouit en fonction de son équilibre le plus profond. Et s'il est père de famille, il utilise son affectivité pour éduquer ses enfants. Maintenant, évidemment, encore faut-il qu'il ait compris quel est le sens de l'éducation. Et s'il ne sait pas dans quelle direction aller, son affectivité, il ne pourra pas l'utiliser. Donc vous voyez qu'il y a toute une articulation de la fin, le désir du bonheur, avec la mise en œuvre la plus excellente possible, vertueuse donc, des moyens qui nous permettent d'y atteindre. Voilà la perspective générale du cours que j'ai essayé de développer ces jours-ci.
Des points d'application pratique, Jean-Marie Meyer, dans le rapport à autrui, on va penser peut-être à deux choses essentiellement, la notion de justice puis la notion d'amitié.
Oui, j'ai choisi ces deux termes parce que quand vous êtes face à un auditoire que vous ne connaissez pas, ce qui était le cas pour moi, puisque c'est la première fois que je viens réfléchir ou faire réfléchir à Philanthropos, ça m'intéressait bien d'avoir... Alors, deux vertus, disons, même si l'amitié, c'est un petit peu plus subtil que cela, deux vertus, justice et amitié, dont on perçoit, je crois, assez rapidement qu'elles sont liées, mais elles ne sont pas identiques. C'est-à-dire, en clair, tout le monde comprend que on ne peut pas vraiment être ami avec quelqu'un si on est injuste avec cette personne. Bien. Mais d'autre part, qu'il ne suffit pas d'être juste pour être ami. On est juste avec ses concitoyens, ils ne sont pas pour autant des amis intimes. Ça, c'est d'accord. Alors voilà, ça m'intéressait de faire réfléchir sur du commun. On a une existence politique les uns les autres, on est tous des citoyens, bon, et les citoyens, il faut qu'ils soient justes les uns l'égard des autres. Mais en même temps, le thème de la personne, hein, on est tous et chacun d'entre nous unique, et on aime bien de temps en temps être reconnu comme unique. Car sinon, je sais pas comment vous dire, on sent bien que on n'est pas complètement reconnu pour ce que l'on est. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que terminer sur l'amitié, pour moi, c'est pas du tout une sorte d'option, enfin, ou de supplément d'âme pour un cours qui n'en aurait pas. C'est vraiment une exigence profonde de l'éthique, d'abord parce qu'Aristote y consacre deux livres dans l'éthique à Nicomaque, ce qui est quand même déjà un signe intéressant. Et puis, plus profondément, l'ami, c'est un autre moi-même. L'ami, c'est celui... Alors c'est justement ce que je dois expliquer à mes étudiants, c'est celui que j'aime pour une raison très simple et très mystérieuse à la fois, parce qu'il est celui-ci ou celle-ci. Autrement dit, c'est vrai que, pour ce qui concerne le vocabulaire, on a envie de dire, dis donc, c'est pas très élaboré votre histoire. Mais c'est que la philosophie, elle est respectueuse du réel. Et donc, chaque histoire amicale est une histoire qui prend par définition deux personnes singulières, et c'est pas au philosophe de se substituer aux gens, de les pousser du coude, « Pousse-toi, je vais t'expliquer pourquoi t'es ami ». Chacun des deux amis sait que c'est cette personne-là qui l'intéresse, la personne de son ami, et on peut supposer, pour que ça marche, et dans le domaine de ce qu'on appelle l'amour, c'est la même chose, c'est « Je t'aime parce que tu es toi ». Et vous voyez bien qu'il y a une sorte de boucle, je reviens sur ma thématique de la personne dont j'étais parti, c'est-à-dire l'amitié, c'est le lieu par excellence où la personne découvre l'alter ego. Alors, c'est pas clos, hein, parce que même si mon ami me révèle d'ailleurs des capacités qui me caractérisent et que éventuellement j'ignorais, mais il demande également que je sois attentif à son bien à lui. Aristote dit que l'amitié est une bienveillance réciproque, l'amitié plénière. Alors ça, c'est très riche, parce que la bienveillance, ça suppose un certain décentrement. La caricature d'une part, et puis surtout la tentation qui guette toute amitié, c'est le mouvement très subtil où on dit qu'on aime bien l'autre, mais en fait, quand on regarde profondément la raison pour laquelle on l'aime, c'est pour ce qu'il m'apporte. Et alors, à ce moment-là, bah, c'est un petit circuit qui se clôt sur nous-mêmes. C'est un égoïsme déguisé. Alors que, même si ça suppose un petit combat, contre soi-même, veux-je dire, elle est plus intéressante, l'amitié passe par le fait non seulement d'aimer l'autre, mais surtout d'aimer son bien à lui. Et vous voyez cet extraordinaire enrichissement dans l'amitié. Je découvre qu'il est à jamais différent de moi et que son bien à lui devient mon bien.
Jean-Marie Meillard, le terme d'éthique est un terme très à la mode aujourd'hui. On l'emploie un peu à toutes les sauces et dans les entreprises et partout. Est-ce qu'à la suite d'un cours comme ça, c'est, je dirais, des belles théories, ou est-ce qu'il y a des applications très concrètes, très pratiques?
C'est vrai que le terme est à la mode, c'est pas une raison pour pas l'utiliser. Toute la question est de savoir quel contenu on met derrière ce mot. Pour moi, je crois avoir essayé de réfléchir sur la question, je ne vois pas de vraie différence de fond entre éthique et morale, sauf que le premier terme est d'origine grecque et le second d'origine latine. Il s'agit bien de prendre en compte ce que sont les mœurs, il s'agit bien de prendre en compte les habitudes de la personne humaine, mais plus radical encore que les mœurs et les habitudes sont les habitus, c'est-à-dire les dispositions que l'on acquiert et dont on devient responsable. Alors, après, il est clair que l'éthique, elle se décline dans les différents secteurs de l'existence, et il s'agit pour nous d'atteindre notre plénitude dans la vie professionnelle, donc éventuellement dans l'entreprise, mais aussi dans la vie familiale, mais aussi dans la vie politique. Et ça, il me semble très important que le professeur d'éthique ne ferme pas trop l'angle, parce que sinon les étudiants ne voient pas effectivement comment il leur revient à eux de porter du fruit là où ils ont à travailler. Ma préoccupation, elle est au contraire de leur ouvrir l'esprit et de leur dire, écoutez, voilà, c'est très court de présenter l'éthique en quelques heures. Sachez en tout état de cause que, votre responsabilité est engagée à partir du moment où vous posez des actes humains, c'est-à-dire des actes personnels. Où que vous les viviez, il dépend de vous d'atteindre la plénitude. Je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle.
Jean-Marie Meillard, merci beaucoup.
Merci à vous.